Chapitre 4. Le siège du Gondor. Pipin fut réveillé par Gandalf. Leur chambre était éclairée de bougies, car seul un faible crépuscule entrait par les fenêtres. L'air était lourd, comme à la venue d'un orage.
« Quelle heure est-il ? »
demanda Pipin bâillant.
« Passez la deuxième heure, » dit Gandalf. « Il est temps de vous lever et de vous rendre présentable. Vous êtes convoqué devant le seigneur de la cité pour prendre connaissance de vos nouvelles fonctions. »«
Est-ce qu'il s'occupe du petit déjeuner ?»«
Non, je vous l'ai fourni. C'est tout ce que vous aurez d'ici midi. Les vivres sont maintenant distribués au compte-gouttes. »
Pipin regarda d'un air dépité le petit pain rond et la plaquette de beurre bien insuffisante, se dit-il, posée sur la table à son intention, à côté d'un gobelet de lait trop clair.
« Pourquoi m'avoir amené ici ? »
demanda-t-il.
« Vous le savez très bien, » dit Gandalf, « pour vous tenir loin des mauvais coups. Et si vous n'êtes pas content d'y être, il n'y a qu'à vous rappeler que vous l'avez cherché. »
Pipin se tut. Bientôt, il marchait de nouveau avec Gandalf le long du froid corridor menant à la porte de la salle de la tour. Denethor y était assis dans la pénombre grise, comme une vieille et patiente araignée, pensa Pipin. Il semblait n'avoir pas bougé depuis la veille. Il fit signe à Gandalf de s'asseoir, mais Pipin resta debout un moment sans qu'on lui prêtât attention. Enfin, le vieillard se tourna vers lui.
« Eh bien, maître Pérégrin, j'espère que la journée d'hier vous aura été profitable et agréable, encore que la table ne soit pas aussi bien garnie chez nous que vous pourriez le souhaiter, je le crains. »
Pipin eut la désagréable impression que tout ce qu'il pouvait dire ou faire venait à l'attention du seigneur de la cité et que même ses pensées lui étaient connues en grande partie. Il ne répondit pas.
« Que comptez-vous faire à mon service ?»
« Je croyais que vous me diriez ce que vous attendez de moi, sire. »«
Je vous le dirai quand je saurai à quoi vous vous entendez, » répondit Denethor. « Mais peut-être le saurai-je plus vite si je vous garde auprès de moi. L'écuyer de ma chambre a demandé congé pour rejoindre la garnison extérieure. Aussi le remplacerez-vous pour un temps. Vous me servirez à boire et à manger. » Vous porterez mes messages et vous me parlerez si la guerre et ses délibérations me laissent quelque loisir. Savez-vous chanter ?
Oui, dit Pipin. Oui, enfin, assez bien pour les gens de mon pays. Mais nous n'avons pas de chansons qui conviennent aux grandes salles et aux jours malheureux, seigneur. Nous chantons rarement des choses plus terribles que le vent ou la pluie. Et la plupart de mes chansons parlent de choses qui nous font rire, ou du manger et du boire, naturellement.
« Et en quoi ces chansons ne conviendraient-elles pas à mes salles ou à des jours comme ceux-ci ? Nous qui vivons depuis longtemps sous la menace de l'ombre, nous aimerions sans doute à entendre les échos d'un pays qu'elle n'a jamais troublé. Ainsi, nous pourrions nous dire que notre veille n'a pas été vaine à défaut de remerciements. »
Pipin sentit son cœur se serrer. Il n'était guère enchanté à l'idée d'entonner un air du comté devant le seigneur de Minas Tirith, certainement pas les airs comiques qui lui étaient les plus familiers. Ils étaient bien trop, enfin, trop rustiques pour la circonstance. On lui épargna toutefois cette épreuve pour le moment. Il ne reçut pas ordre de chanter. Denethor se tourna plutôt vers Gandalf, qui l'interrogea sur les Rohirrim, sur leur politique et sur les vues d'Éomer, le neveu du roi. Pipin s'étonna de voir à quel point le seigneur était au fait des spécialités d'un peuple étranger, d'autant plus, se dit-il, que Denethor ne devait pas avoir quitté le royaume depuis bon nombre d'années. Denethor fit bientôt signe à Pipin et le congédia de nouveau pour quelque temps.
« Rendez-vous aux armureries de la citadelle, » dit-il, « et procurez-vous l'équipement et la livrée de la tour. Ils vous y attendent, commandés pour vous hier. » « Revenez quand vous serez vêtu. »
Le seigneur ne mentait pas, et Pipin se trouva bientôt affublé d'étranges habits, tout de noir et argent. Il avait un petit haubert, aux mailles d'acier sans doute, mais d'un noir de jais, et un casque haut de forme avec de petites ailes de corbeau déployées de chaque côté, et une étoile argent sertie au milieu du bandeau. Par-dessus les mailles venait un surcot noir, mais sur la poitrine, l'emblème de l'arbre était brodé de fils d'argent. Ses vieux vêtements furent pliés et rangés, mais on lui permit de garder la cape grise de la Laurienne, à condition de ne pas la porter quand il était de service. Ainsi, sans s'en douter, il avait tout l'air d'un Ernil Iferianath, le prince des demi-hommes que les gens avaient vu en lui. Mais il ne se sentait pas à l'aise, et la pénombre commençait à jouer sur son humeur. Toute cette journée fut sombre et morne. De l'aube sans soleil jusqu'au soir, l'ombre pesante ne cessa de se faire plus dense, et tous les cœurs de la cité étaient oppressés. Loin en haut, un grand nuage venu du pays noir s'étendait lentement vers l'ouest, dévorant la lumière, porté par le vent de la guerre. Mais l'air au-dessous était d'un calme fébrile, comme si toute la vallée de Landuin redoutait l'assaut d'un orage dévastateur. Autour de la 11e heure, enfin libéré de ses obligations pour quelque temps, Pipin alla en quête de nourriture et de boissons pour se remonter le cœur et rendre son service plus supportable. Il retrouva Bérégon dans le mess. Celui-ci rentrait tout juste d'une expédition au-delà du Pélénor, jusqu'au tour de garde sur la chaussée. Ensemble, ils allèrent se promener sur les remparts, car Pipin se sentait prisonnier à l'intérieur. Même les hauts plafonds de la citadelle l'étouffaient. Ils s'assirent de nouveau côte à côte, devant l'embrasure, regardant sur l'est où ils avaient mangé et discuté la veille. C'était l'heure du couchant, mais le manteau de ténèbres s'étendait à présent loin dans l'ouest, et ce ne fut qu'au moment de sombrer dans la mer que le soleil reparut pour jeter un dernier rayon d'adieu avant la nuit, le même que vit Frodo à la croisée des routes, éclairant le front du roi déchu. Mais sur les champs du Pélénor, dans l'ombre du Mindoluin, ne vint aucun rayon. Ils étaient bruns et mornes. Pipin eut l'impression qu'il y avait déjà des années qu'il s'était assis là, à l'époque à demi oublié où il était encore un hobbit, un voyageur au cœur léger que les périls rencontrés n'avaient jamais vraiment touché. Mais voilà qu'il était devenu un petit soldat dans une cité devant un grand assaut, vêtu à la manière de la tour de garde, fier mais sombre. En d'autres temps et d'autres lieux, Pipin se fût sans doute réjoui de son nouveau costume, mais il savait cette fois que ce n'était pas un jeu. Il était réellement au service d'un maître aussi sévère qu'autoritaire, et il courait un grave danger. Le haubert était encombrant, et le casque pesait sur son crâne. Il s'était défait de sa cape, jetée sur le banc à côté de lui. Il détourna son regard fatigué des champs assombris, avec un bâillement, puis il soupira. « Vous êtes là de cette journée ?» demanda Bérégon.
« Oui, très, » répondit Pipin, « épuisé d'attendre et de rester oisif. J'ai dû faire le pied de grue à la porte de la chambre de mon maître durant de longues heures, pendant qu'il débattait avec Gandalf, le prince et d'autres grands personnages. Et je n'ai pas l'habitude, maître Bérégon, de servir le ventre vide pendant que d'autres mangent. C'est une dure épreuve pour un hobbit que celle-là. Vous direz sans doute que je devrais m'en faire honneur. » Mais à quoi bon pareil honneur? À quoi bon manger ou boire, en fait, sous cette ombre envahissante? Pourquoi faire? On dirait que l'air est comme une épaisse fumée brune. Avez-vous souvent des nuages comme ceux-ci quand le vent souffle de l'est?
Non, dit Bérégon. Cela n'a rien d'une intempérie de la nature. C'est un artifice de sa malignité, une concoction de fumée de la montagne du feu envoyée pour assombrir nos cœurs et nos conseils. Et elle y réussit, à l'évidence. Je voudrais bien voir rentrer le seigneur Faramir. Lui ne serait pas décontenancé. Mais maintenant, qui sait s'il reviendra jamais de ce côté du fleuve, échappant à l'obscurité?
C'est vrai, dit Pipin. Gandalf s'inquiète aussi. Il était déçu, je crois, de ne pas trouver Faramir ici. Et lui-même, où est-il passé? Il a quitté le conseil du seigneur avant le repas de midi, et il ne semblait pas de très bonne humeur non plus, ai-je pensé. Il a peut-être un mauvais pressentiment.
Mais tandis qu'ils parlaient, ils furent soudain frappés de mutisme. Figés, eût-on dit, comme des pierres attentives. Pipin se recroquevilla, les mains sur les oreilles, mais Bérégon, qui se trouvait à regarder du haut des remparts en s'interrogeant sur Faramir, demeura cloué sur place, écarquillant des yeux stupéfiés. Pipin reconnut le cri effrayant qu'il venait d'entendre, celui-là même qu'il avait entendu longtemps auparavant dans la Marèche du comté. Mais il avait gagné en puissance et en haine, perçant le cœur comme un désespoir contagieux. Enfin, Bérégon parla avec effort.
« Ils sont là !» dit-il. « Prenez courage et regardez. Il y a des choses terribles là en bas !»
Hésitant, Pipin monta sur le banc et regarda par-dessus le mur. Le Pélénor se déployait devant lui, sombre et indistinct, jusqu'à la ligne à peine devinée du grand fleuve. Mais, tournoyant sous lui à mi-hauteur, telles des ombres de nuit surgies avant l'heure, il vit cinq horribles formes d'oiseaux, pareilles à des charognards, mais plus grandes que des aigles, cruelles comme la mort, tantôt plongeant tout près des murs, presque à portée de tir, tantôt tourbillonnant au loin.
« Des cavaliers noirs !» murmura Pipin. « Des cavaliers noirs déserts !»« Mais regardez, Bérégon !» s'écria-t-il. « Ils cherchent quelque chose, assurément. Voyez comme ils tournent et plongent toujours vers cet endroit là-bas. Et voyez-vous ces choses qui bougent au sol ? Des points sombres. Oui, des hommes à cheval. 4 ou 5. Ah, je ne peux pas voir ça. Gandalf ! Gandalf, sauvez-nous !»
Un autre long cri strident s'éleva et retomba, et Pipin se jeta de nouveau derrière le mur, haletant comme un animal traqué. Il entendit, faible et lointaine à travers ce cri perçant, une sonnerie, une trompette qui monta des terres et s'acheva sur une longue note aiguë.
« Faramir ! Le seigneur Faramir ! C'est son appel !» s'écria Bérégon. « Cœur vaillant ! Mais comment faire pour atteindre la porte si ces oiseaux démoniaques ont d'autres armes que la peur ? Mais voyez, ils tiennent bon ! Ils vont atteindre la porte ! Non ! Les chevaux s'emballent. Regardez, les cavaliers sont jetés bas. Ils courent à pied. Non, l'un d'eux est toujours en selle, mais il revient vers les autres. C'est sans doute le capitaine. Il maîtrise aussi bien les bêtes que les hommes. Ah, voilà une de ces créatures immondes qui plonge sur lui. À l'aide, à l'aide! Personne n'ira-t-il à son secours? Faramir!
Sur ce, Bérégon partit d'un bond et courut à travers la pénombre. Honteux de sa frayeur, alors que Bérégon de la garde songeait d'abord au capitaine qu'il aimait, Pipin se releva et regarda au dehors. À ce moment, il vit jaillir du nord un éclair blanc et argent, comme une petite étoile descendue dans le crépuscule des champs. Vive comme une flèche, elle grandissait en avançant, convergeant rapidement avec les quatre hommes fuyant vers la porte. On eût dit qu'un halo de lumière l'environnait, que les ombres pesantes reculaient devant elle. Et comme elle s'approchait, il crut entendre, tel un écho entre les murs, une grande voix qui appelait.
« Gandalf ! » s'écria-t-il. « Gandalf ! Il apparaît toujours quand tout est au plus noir. Va, va, cavalier blanc ! Gandalf ! Gandalf ! »
cria-t-il avec ferveur, comme le spectateur d'une grande course exhortant un coureur, pourtant bien au-delà de tout encouragement. Mais les ombres tournoyantes s'étaient avisées de la présence du nouvel arrivant. L'une d'elles fonça vers lui. Mais Pipin crut le voir lever une main et un trait de lumière blanche jaillit vers le ciel. Le Nazgûl poussa un long cri plaintif et vira soudainement. Puis, les autres vacillèrent et s'élevant en de vives spirales, ils filèrent à l'est et disparurent dans le bas nuage noir. Tandis que, sur les champs du Pélénor, les ténèbres parurent s'estomper un moment. Sous le regard de Pipin, l'homme à cheval et le cavalier blanc se rejoignirent et s'arrêtèrent, attendant les autres qui venaient à pied. Des hommes de la cité coururent alors à leur rencontre, et tous passèrent bientôt hors de vue, sous les murs extérieurs, sans doute en train de franchir la porte. Devinant qu'ils monteraient aussitôt à la tour pour voir l'intendant, Pipin se rendit en toute hâte à l'entrée de la citadelle. Là, il fut rejoint par de nombreux autres qui, comme lui, avaient observé la scène du haut des murs. Avant peu, une clameur retentit dans les rues qui grimpaient des cercles extérieurs. Une effusion de cris et de hurrahs où s'entendaient les noms de Faramir et de Mithrandir. Pipin entrevit bientôt des torches et, devant un grand attroupement, deux cavaliers au pas. L'un était en blanc, mais ne brillait plus, pâle dans le crépuscule, comme si son éclat était épuisé ou voilé. L'autre était sombre et il courbait la tête. Ils mirent pied à terre. et pendant que les palefreniers s'occupaient de Scalifax et de l'autre monture, ils allèrent trouver la sentinelle à la porte. Gandalf d'un pas décidé, sa cape grise rejetée en arrière, un feu couvant encore dans ses yeux. L'autre, tout en vert, lentement, vacillant un peu, comme un homme éreinté ou blessé. Comme ils arrivaient sous la lanterne de la voûte d'entrée, Pipin se pressa en avant et, apercevant le pâle visage de Faramir, il retint son souffle. C'était celui d'un homme qui, après une grande peur ou un profond tourment, a retrouvé son calme et la maîtrise de soi. Grave et fier, il s'arrêta un moment pour s'adresser aux gardes. Et Pipin, l'observant, put voir à quel point il ressemblait à Boromir, que Pipin avait aimé d'emblée, admirant sa grandeur, sa manière à la fois seigneuriale et bienveillante. Mais voici que pour Faramir, il conçut tout à coup un sentiment étrange qu'il n'avait jamais éprouvé avant. Il y avait chez lui un air de haute noblesse, comme celui qu'Aragorn montrait parfois. Moins haute peut-être, mais en même temps plus proche et moins ineffable. Un roi des hommes, né à une époque ultérieure, mais touché par la sagesse et la tristesse du peuple aîné. Il comprit pourquoi Bérégon avait prononcé son nom avec amour. C'était un capitaine que les hommes suivraient sans conteste, que lui-même serait prêt à suivre, même dans l'ombre des ailes noires.
« Faramir ! » cria-t-il avec les autres. « Faramir ! »
Et Faramir, percevant son étrange petite voix parmi la clameur des hommes, se retourna et baissa sur lui des yeux pleins d'étonnement.
« D'où sortez-vous ? » demanda-t-il. « Un demi-homme, vêtu dans la livrée de la tour. Mais d'où ?»
Alors Gandalf s'avança pour lui parler.
« Il est venu avec moi du pays des demi-hommes, » dit-il. « Il est venu avec moi. Mais ne nous attardons pas ici. Il y a fort à dire et à faire, et vous êtes fatigués. Il va nous accompagner. En fait, il n'a pas le choix, car à moins qu'il n'oublie ses nouveaux devoirs plus facilement que moi, il doit retrouver son maître dans l'heure. Allons, Pipin, suivez-nous. »
Ainsi, ils gagnèrent enfin la chambre privée du seigneur de la cité, où de profonds fauteuils étaient disposés autour d'un brasero de charbon de bois. Du vin fut servi, et Pipin, presque invisible derrière le fauteuil de Denethor, sentait à peine sa fatigue, tant son oreille était attentive à tout ce qui se disait.